Chapitre 7. Comment M. Winkle, au lieu de tirer le pigeon et de tuer la corneille, tira la corneille et blessa le pigeon. Comment le club de la crosse de Dingledale lutta contre celui de Muggleton et comment Muggleton dîna aux dépens de Dingledale. Avec diverses autres manières également instructives et intéressantes. Les fatigantes aventures de la journée ou peut-être l'influence somnifère de l'histoire racontée par le ministre, opérèrent si fortement sur les nerfs de M. Pickwick qu'il était à peine au lit depuis 5 minutes lorsqu'il s'endormit d'un sommeil profond. Il n'en fut tiré que le lendemain matin par les brillants rayons du soleil levant qui pénétraient dans sa chambre et qui semblaient lui adresser des reproches. M. Pickwick n'était pas paresseux. Comme un vaillant guerrier, il s'élança hors de sa tente, je veux dire, à bas de son lit. « Quel délicieux pays » s'écria-t-il avec enthousiasme en ouvrant sa jalousie. « Ah, lorsqu'on a senti l'influence d'un semblable paysage, pourrait-on consentir à vivre pour n'apercevoir chaque jour que des briques et des ardoises ? Pourrait-on continuer d'exister dans un lieu où l'on ne voit pas de foin, excepté dans les écuries ? Pas de plantes fleuries, excepté des joubarbes sur les toits ? Pas de vaches, excepté celles de l'impériale des voitures ? Rien qui rappelle le dieu Pan, excepté des pans de murailles ? Pourrait-on consentir à traîner sa vie dans un tel séjour ? Je le demande, pourrait-on endurer une semblable existence ? Après avoir ainsi, durant longtemps, interrogé la solitude, suivant l'usage des plus grands poètes, M. Pickwick allongea la tête hors de la croisée et regarda autour de lui. La douce et pénétrante odeur des foins qu'on venait de faucher montait jusqu'à lui. Les 1000 parfums des petites fleurs au jardin embaumaient l'air d'alentour. La verte prairie brillait sous la rosée matinale et chaque brin d'herbe étincelait, agité par un doux zéphyr. Enfin, les oiseaux chantaient, comme si chacune des larmes de l'aurore avait été pour eux une source d'inspiration. En contemplant ce spectacle, M. Pickwick tomba dans une douce et mystérieuse rêverie. « Ohé !» Tels furent les sons qui le rappelèrent à la vie réelle. Sa vue se porta rapidement sur la droite, mais il ne découvrit personne. Ses yeux s'égarèrent vers la gauche et percèrent en vain l'étendue. Il mesura d'un regard audacieux le firmament, mais ce n'était point de là qu'on l'appelait. Enfin, il fit ce qu'un esprit vulgaire aurait fait du premier coup, il regarda dans le jardin et y vit M. Wardle. « Comment ça va-t-il ? » lui demanda son joyeux hôte. « Belle matinée, n'est-ce pas ? Charmé de vous voir levé de si bonne heure. Dépêchez-vous de descendre, je vous attendrai ici. » M. Pickwick n'eut pas besoin d'une seconde invitation. 10 minutes lui suffirent pour compléter sa toilette et, à l'expiration de ce terme, il était à côté du vieux gentleman. « Qu'est-ce qu'il y a ? » demanda M. Pickwick en voyant que son hôte était armé d'un fusil et qu'il y en avait un second près de lui sur le gazon. « Votre ami et moi, répliqua M. Wardle, nous allons tirer des corneilles avant déjeuner. « Il est très bon tireur, n'est-il pas vrai ?»« Je le lui ai entendu dire, mais je ne lui ai jamais vu ajuster la moindre chose. »« Je voudrais bien qu'il se dépêchât, » murmura M. Wardle. Et il appela. « Joe ! Joe !» Peu de temps après, on vit sortir de la maison le gros joufflu qui, grâce à l'influence excitante de la matinée, n'était guère assoupi qu'aux 3/4. « Allez appeler le gentleman, » lui dit son maître, « et prévenez-le qu'il me trouvera avec M. Pickwick dans le bois. Vous lui montrerez le chemin, entendez-vous ?» Joe s'éloigna pour exécuter cette commission et M. Wardle, portant les 2 fusils, conduisit M. Pickwick hors du jardin. « Voici la place, » dit-il au bout de quelques minutes en s'arrêtant dans une avenue d'arbres. C'était un avertissement inutile, car le croassement continuel des pauvres corneilles indiquait suffisamment leur domicile. Le vieux gentleman posa l'un des fusils sur la terre et chargea l'autre. Voilà nos gens, dit M. Pickwick. Et, en effet, on aperçut au loin M. Tupman, M. Snodgrass et M. Winkle, car Joe, ne sachant pas au juste lequel de ces messieurs il devait amener, avait jugé, dans sa sagacité profonde, que pour prévenir toute erreur, le meilleur moyen était de les convoquer tous les trois. Arrivez, arrivez ! Cria le vieux gentleman à M. Winkle. Un fameux tireur comme vous aurait dû être prêt depuis longtemps, même pour si peu de choses. M. Winkle répondit par un sourire contraint et ramassa le fusil qui lui était destiné, avec l'expression de physionomie qui aurait pu convenir à une corneille métaphysicienne, tourmentée par le pressentiment d'une mort prochaine et violente. C'était peut-être de l'indifférence, mais cela ressemblait prodigieusement à de l'abattement. Le vieux gentleman fit un signe et deux gamins déguenillés commencèrent à grimper lestement sur deux arbres. « Pourquoi faire ces enfants ?» demanda brusquement M. Pickwick. Son bon cœur s'était alarmé, car il avait tant entendu parler de la détresse des laboureurs qu'il n'était pas éloigné de croire que leurs enfants pussent être forcés par la misère à s'offrir eux-mêmes pour but aux chasseurs, afin d'assurer ainsi à leurs parents une chétive subsistance. « Seulement pour faire lever le gibier, » répondit en riant M. Wardle. « Pour faire quoi ?»« Pour effrayer les corneilles. »« Ah, voilà tout ?»« Oui, vous voilà entièrement tranquille ?»« Tout à fait. »« Très bien. Comment serais-je ?» ajouta le vieux gentleman en s'adressant à M. Winkle. « Oui, s'il vous plaît !» répondit celui-ci, enchanté d'avoir un moment de répit. « Reculez-vous un peu. Allons, voilà le moment !» L'un des enfants cria en secouant une branche sur laquelle était un nid, et aussitôt une douzaine de jeunes corneilles, interrompues au milieu d'une très bruyante conversation, s'élancèrent au dehors pour demander de quoi il s'agissait. Le vieux gentleman fit feu par manière de réplique. L'un des oiseaux tomba et les autres s'envolèrent. « Ramassez-le, Joe !» dit le vieux gentleman. Le corpulent jeune homme s'avança et ses traits s'épanouirent en guise de sourire. Des visions indistinctes de pâtés de corneilles flottaient devant son imagination. En emportant l'oiseau, il riait car la victime était grasse et tendre. « Maintenant, à votre tour, monsieur Winkle, » dit le vieux gentleman en rechargeant son fusil. « Allons, tirez !» Monsieur Winkle s'avança et épaula son fusil. Monsieur Pickwick et ses compagnons se reculèrent involontairement pour éviter la pluie de corneilles qu'ils étaient sûrs de voir tomber sous le plomb dévastateur de leur ami. Il y eut une pause solennelle, un grand cri, un battement d'ailes, un léger clic. « Oh, oh !» fit le vieux gentleman. « Il ne veut pas partir ?» demanda M. Pickwick. « Il a raté !» répondit M. Winkle, qui était fort pâle, probablement de désappointement. « C'est étrange !» dit le vieux gentleman en prenant le fusil. « Cela ne lui est jamais arrivé. »« Comment ? Je ne vois aucun reste de la capsule. »« En vérité !» répartit M. Winkle. « J'aurais complètement oublié la capsule !» Cette légère omission fut réparée. M. Pickwick s'abrita de nouveau et M. Tupman se mit derrière un arbre. M. Winkle fit un pas en avant, d'un air déterminé, en tenant son fusil à deux mains. L'enfant cria, quatre oiseaux s'envolèrent. M. Winkle leva son arme. On entendit une explosion, puis un cri d'angoisse. Mais ce n'était pas le cri d'une corneille. M. Tupman avait sauvé la vie à beaucoup d'innocents oiseaux en recevant dans son bras gauche une partie de la charge. Il serait impossible d'exprimer la confusion qui s'ensuivit, de dire comment M. Pickwick, dans les premiers transports de son émotion, appela M. Winkle « misérable ». Comment M. Tupman était étendu sur le gazon, comment M. Winkle, frappé d'horreur, s'était agenouillé auprès de lui, comment M. Tubman, dans le délire, invoquait plusieurs noms de baptême féminin, puis ouvrait un œil, puis l'autre, et retombait en arrière en les fermant tous les deux. Une telle scène serait aussi difficile à décrire qu'il le serait de peindre le malheureux blessé revenant graduellement à lui-même, voyant bander ses plaies avec des mouchoirs et regagnant lentement la maison, appuyé sur ses amis inquiets. Les dames étaient sur le seuil de la porte, attendant le retour de ces messieurs pour déjeuner. La tante demoiselle brillait entre toutes. Elle sourit et leur fit signe de venir plus vite. Il était évident qu'elle ne savait point l'accident arrivé. Pauvre créature, il y a des moments où l'ignorance est véritablement un bienfait. On approchait de plus en plus. Qu'est-il donc arrivé au vieux petit monsieur ? Dit à mi-voix Miss Isabella Wardle. La tante demoiselle ne fit pas attention à cette remarque. Elle crut qu'il s'agissait de M. Pickwick, car, à ses yeux, Tracy Tupman était un jeune homme. Elle voyait ses années à travers un verre rapetissant. « Ne vous effrayez point !» cria M. Wardle à ses filles. Et la petite troupe était tellement pressée autour de M. Tupman qu'on ne pouvait pas encore distinguer clairement la nature de l'événement. « Ne vous effrayez point !» répliqua M. Wardle quelques pas plus loin. « Qu'y a-t-il donc ?» s'écrièrent les dames, horriblement alarmées par cette précaution. « Il est arrivé un petit accident à M. Tupman, voilà tout !» La tante demoiselle poussa un cri perçant, ferma les yeux et se laissa tomber à la renverse dans les bras des deux jeunes personnes. « Jetez-lui de l'eau froide au visage !» s'écria le vieux gentleman. « Non, non !» murmura la tante demoiselle. « Je suis mieux maintenant. Bella, Émilie, un chirurgien. Est-il blessé? Est-il mort? Est-il... Ah !» Et la tante demoiselle, poussant de nouveaux cris, eut une attaque de nerfs numéro 2. « Calmez-vous, » dit M. Tupman, affecté presque jusqu'aux larmes de cette expression de sympathie pour ses souffrances. « Chère demoiselle, calmez-vous !»« C'est sa voix !» s'écria la tante demoiselle. Et de violents symptômes d'une attaque numéro 3 se manifestèrent aussitôt. « Ne vous tourmentez pas, je vous en supplie, très chère demoiselle !» reprit M. Tupman d'une voix consolante. « Je suis fort peu blessé, je vous assure !»« Vous n'êtes donc pas mort ?» s'écria la nerveuse personne. « Oh, dites que vous n'êtes pas mort !»« Ne faites pas la folle, Rachel !» interrompit M. Wardle, d'une manière plus brusque que ne semblait le comporter la nature poétique de cette scène. « Quel diable de nécessité y a-t-il qu'il vous dise lui-même qu'il n'est pas mort ?»« Non, je ne le suis pas !» reprit M. Tubman. « Je n'ai pas besoin d'autre secours que des vôtres. Laissez-moi m'appuyer sur votre bras !» Et il ajouta à son oreille « Oh, Miss Rachel !» Pleine d'agitation, la dame de ses pensées s'avança et lui offrit son bras. Ils entrèrent ensemble dans le salon. M. Tracy Tupman pressa doucement sur ses lèvres une main qu'on lui abandonna et se laissa tomber ensuite sur un canapé. « Vous trouvez-vous mal ?» demanda Rachel avec anxiété. « Non, ce n'est rien. Je serai mieux dans un instant, » répondit M. Tupman en fermant les yeux. « Il dort !» murmura la tante demoiselle. Il avait clos ses paupières depuis près de 20 secondes. « Il dort, cher M. Tupman !» M. Tupman sauta sur ses pieds. « Oh, répétez ces paroles » s'écria-t-il. La dame tressaillit. « Sûrement, vous ne les avez pas entendus !» dit-elle avec pudeur. « Oh, si, je les ai entendus !» répliqua chaleureusement M. Tupman. « Répétez ces paroles, si vous voulez que je guérisse. Répétez-les !»« Silence !» dit la dame. « Voilà mon frère !» M. Tracy Tupman reprit sa première position et M. Wardle entra dans la chambre accompagné d'un chirurgien. Le bras fut examiné, la blessure pansée et déclarée fort légère. Et l'esprit des assistants se trouvant ainsi rassuré, ils procédèrent à satisfaire leur appétit. La gaieté brillait de nouveau sur leurs visages. M. Pickwick seul restait silencieux et réservé. Le doute et la méfiance se peignaient sur sa physionomie expressive, car sa confiance en M. Winkle avait été ébranlée, grandement ébranlée, par les aventures du matin. « Jouez-vous à la crosse ?» demanda M. Wardle au chasseur. Dans tout autre temps, M. Winkle aurait répondu d'une manière affirmative, mais il sentit la délicatesse de sa position et répéta modestement « Non, monsieur. » « Et vous, monsieur ?» demanda M. Snodgrass au joyeux vieillard. « J'y jouais autrefois, » répliqua celui-ci, « mais j'y ai renoncé désormais. Cependant, je souscris au club, quoique je ne joue plus. » N'est-ce pas aujourd'hui qu'a lieu la grande partie entre les camps opposés de Muggleton et de Dingledale ? Demanda M. Pickwick. Oui, répliqua leur hôte. Vous y viendrez, n'est-ce pas ?
Oui, monsieur, répondit M. Pickwick, et j'ai grand plaisir à voir des exercices auxquels on peut se livrer sans danger et dans lesquels la maladresse des gens ne met pas en péril la vie de leurs semblables. En prononçant ces mots, M. Pickwick fit une pause expressive et regarda fixement M. Winkle, qui ne put soutenir sans frémir le coup d'œil pénétrant de son mentor. Celui-ci ajouta alors « Ne serait-il pas convenable de confier notre ami blessé aux soins de ces dames ?»«
Vous ne pouvez pas me placer dans de meilleures mains, » murmura M. Tupman.
« Ce serait impossible, » ajouta M. Snodgrass. Il fut donc convenu que M. Tupman resterait à la maison sous la surveillance des dames et que la portion masculine de la société, conduite par M. Wardle, irait juger des coups dans ce combat d'habileté qui avait tiré Muggleton de sa torpeur et inoculé à Dingledale une excitation fébrile. Il n'y avait guère qu'une demi-lieue de distance à parcourir et le sentier couvert de mousse passait par des allées ombragées. La conversation roula principalement sur les délicieux paysages qui se découvraient tour à tour, et M. Pickwick regretta presque d'avoir été si vite lorsqu'il se trouva dans la grande rue de Muggleton. Toutes les personnes dont le génie est doué de la moindre propension géographique savent nécessairement que la ville de Muggleton jouit d'une corporation, qu'elle possède un maire, des bourgeois, des électeurs. Et quiconque consultera les adresses du maire aux freemen, ou celles des freemen au maire, ou celles du maire et des freemen à la corporation, ou celles du maire, des freemen et de la corporation au parlement, apprendra par là ce qu'il aurait dû connaître auparavant, à savoir que Muggleton est un bourg ancien et loyal, unissant une ferveur zélée pour les principes du christianisme à un attachement solide aux droits commerciaux. En preuve de quoi, le maire, la corporation et divers habitants ont présenté à différentes reprises 68 pétitions pour qu'on permît la vente des bénéfices dans l'église, 86 pétitions pour qu'on défendît la vente dans les rues le dimanche, 1420 pétitions contre la traite des Noirs en Amérique, avec un nombre égal de pétitions contre toute espèce d'intervention législative au sujet du travail exagéré des enfants dans les manufactures anglaises. Lorsque M. Pickwick se trouva dans la grande rue de cet illustre bourg, il contempla la scène qui s'offrit à ses yeux avec une curiosité mélangée d'intérêt. La place du marché avait la forme d'un carré au centre duquel s'était érigée une vaste auberge. Son enseigne énorme étalait un objet fort commun dans les arts, mais qu'on rencontre rarement dans la nature, c'est-à-dire un lion bleu ayant trois pattes en l'air et se balançant sur l'extrémité de l'ongle central de la quatrième. On voyait aux environs un bureau d'assurance contre l'incendie et celui d'un commissaire-priseur, les magasins d'un marchand de blé et d'un marchand de toile,
les boutiques d'un cellier, d'un distillateur, d'un épicier, d'un cordonnier, lequel cordonnier faisait également servir son local à la diffusion des chapeaux, des bonnets, des hardes de toute espèce, des parapluies et des connaissances utiles. Il y avait en outre une petite maison de briques rouges, précédée d'une sorte de cour pavée, et que tout le monde, à la première vue, reconnaissait pour appartenir à un avoué. Il y avait encore une autre maison en briques rouges, sur la porte de laquelle s'étalait une large plaque de cuivre, annonçant, en caractère très lisible, que cette maison appartenait à un chirurgien. Quelques jeunes gens se dirigeaient vers le jeu de crosse, et deux ou trois boutiquiers, se tenant debout sur le pavé de leur porte, avaient l'air fort désireux de se rendre au même endroit, comme ils auraient pu le faire, selon toutes les apparences, sans perdre un grand nombre de chalands. M. Pickwick s'était déjà arrêté pour faire des observations qu'il se proposait de noter à son aise, mais comme ses amis avaient quitté la grande rue, il se hâta de les rejoindre et les retrouva en vue du champ de bataille. Les barres que les joueurs doivent conquérir ou défendre étaient déjà placées, aussi bien qu'un couple de tentes pour servir au repos et au rafraîchissement des parties belligérantes. Mais le jeu n'était pas encore commencé. Deux ou trois Dingley-Dellois ou Muggletoniens s'amusaient d'un air majestueux à jeter négligemment leurs balles d'une main dans l'autre. Ils avaient des chapeaux de paille, des jaquettes de flanelle et des pantalons blancs, ce qui leur donnait tout à fait la tournure d'amateurs tailleurs de pierre. Quelques autres gentlemen, vêtus de la même manière, étaient éparpillés autour des tentes, vers l'une desquelles M. Wardle conduisit sa société. Plusieurs douzaines de « Comment vous portez-vous » saluèrent l'arrivée du vieux gentleman, et il y eut un soulèvement général de chapeaux de paille avec une inclinaison contagieuse de gilets de flanelle lorsqu'il introduisit ses hôtes comme des gentlemen de Londres qui désiraient vivement assister aux agréables divertissements de la journée. « Je crois, monsieur, que vous feriez mieux d'entrer dans la marquise, » dit un très volumineux gentleman dont le corps paraissait être la moitié d'une gigantesque pièce de flanelle perchée sur un couple de traversins. « Vous y seriez beaucoup mieux, monsieur, » ajouta un autre gentleman, aussi volumineux que le précédent, et qui ressemblait à l'autre moitié de la susdite pièce de flanelle. « Vous êtes bien bon, » répondit M. Pickwick. « Par ici, » reprit le premier gentleman. « C'est ici que l'on marque, c'est la place la meilleure. » Et il les précéda en soufflant comme un cheval poussif. « Jeu superbe, noble occupation, bel exercice, charmant. » Telles furent les paroles qui frappèrent les oreilles de M. Pickwick en entrant dans la tente, et le premier objet qui s'offrit à ses regards fut son ami de la voiture de Rochester. Il était en train de pérorer, à la grande satisfaction d'un cercle choisi des joueurs élus par la ville de Muggleton. Son costume s'était légèrement amélioré. Il avait des bottes neuves, mais il était impossible de le méconnaître. L'étranger reconnut immédiatement ses amis. Avec son impétuosité ordinaire et en parlant continuellement, il se précipita vers M. Pickwick, le saisit par la main et le tira vers un siège, comme si tous les arrangements du jeu avait été spécialement sous sa direction. Par ici, par ici. Ce sera fièrement amusant. Muite de bière, monceau de bœuf, tonneau de moutarde, glorieuse journée. Asseyez-vous, mettez-vous à l'aise. Charmé de vous voir, très charmé. Monsieur Pickwick s'assit comme on le lui disait, et messieurs Winkle et Snodgrass suivirent également les indications de leur mystérieux ami. M. Wardle l'examinait avec un étonnement silencieux. « Monsieur Wardle, un de mes amis, » dit M. Pickwick à l'étranger. « Un de vos amis ? » s'écria celui-ci. « Mon cher monsieur, comment vous portez-vous ? Les amis de nos amis sont... votre main, monsieur !» En enfilant ces phrases, l'étranger saisit la main de M. Wardle avec toute la chaleur d'une vieille intimité, puis se recula de deux ou trois pas, comme pour mieux voir son visage et sa tournure, puis secoua sa main de nouveau plus chaudement encore que la première fois, s'il est possible. « Et comment êtes-vous venu ici ?» demanda M. Pickwick avec un sourire où la bienveillance luttait contre la surprise.
« Venu, je loge à l'auberge de la Couronne à Muggleton. Rencontrer une société. Jaquette de flanelle, pantalon blanc, sandwich aux anchois, rognon braisé, femme gaillard, charmant. »
M. Pickwick connaissait assez le système sténographique de l'étranger pour conclure de cette communication rapide et disloquée que, d'une manière ou d'une autre, il avait fait connaissance avec les Muggletoniens et que, par un procédé qui lui était particulier, il était parvenu à en extraire une invitation générale. La curiosité de M. Pickwick, ainsi satisfaite, il ajusta ses lunettes et se prépara à considérer le jeu qui venait de commencer. Les deux joueurs les plus renommés du fameux club de Muggleton, M. Dumpkins et M. Podder, tenant leurs crosses à la main, se portèrent solennellement vers leurs guichets respectifs. M. Luffet, le plus noble ornement de Dingledale, fut choisi pour bouler contre le redoutable Dumpkins, et M. Struggle fut élu pour rendre le même office à l'invincible Podder. Plusieurs joueurs furent placés pour guetter les balles en différents endroits de la plaine, et chacun d'eux se mit dans l'attitude convenable en appuyant une main sur chaque genou et en se courbant, comme s'il avait voulu offrir un dos favorable à quelque apprenti saute-mouton. Tous les joueurs classiques se posent ainsi, et même on pense généralement qu'il serait impossible de bien voir venir une balle dans une autre attitude. Les arbitres se placèrent derrière les guichets et les compteurs se préparèrent à noter les points. Il se fit alors un profond silence. M. Luffet se retira quelques pas en arrière du guichet de l'immuable Podder et, durant quelques secondes, il appliqua sa balle à son œil droit. Dumpkins, les yeux fixés sur chaque mouvement de Luffet, attendait l'arrivée de la balle avec une noble confiance.
« Attention !» s'écria soudain le bouleur. Et, en même temps, la balle s'échappe de sa main, rapide comme l'éclair, et se dirige vers le centre du guichet. Le prudent Dumpkins était sur ses gardes. Il reçut la balle sur le bout de sa crosse et la fit voler au loin par-dessus les éclaireurs qui s'étaient baissés justement assez pour la laisser passer au-dessus de leur tête.
« Courez, courez ! Une autre balle ! Maintenant ! Allons, jetez-la ! Allons, arrêtez-la ! Une autre ! Non, oui, non, jetez-la, jetez-la !» Telles furent les acclamations qui suivirent ce coup, à la conclusion duquel Muggleton avait gagné 2 points. Cependant, Podder n'était pas moins actif à se couvrir de lauriers, dont l'éclat rejaillissait également sur Muggleton. Il bloquait les balles douteuses, laissait passer les mauvaises, prenait les bonnes et les faisait voler dans tous les coins de la plaine. Les coureurs étaient sur les dents. Les bouleurs furent changés, et d'autres boulèrent jusqu'à ce que leurs bras en devinssent roides. Mais Dumpkins et Podder restèrent invaincus. Vainement, la balle était lancée droit au centre du guichet. Ils y arrivaient avant elle et la repoussaient au loin. Un gentleman d'un certain âge s'efforçait-il d'arrêter son mouvement? Elle roulait entre ses jambes ou glissait entre ses doigts. Un mince gentleman essayait-il de l'attraper? Elle lui choquait le nez et rebondissait plaisamment avec une nouvelle force, pendant que les yeux du joueur maladroit se remplissaient de larmes et que son corps se tordait par la violence de ses angoisses. Enfin, quand on fit le compte de Dumpkins et de Podder, Muggleton avait marqué 54 points, tandis que la marque des Dingledalois était aussi blanche que leur visage. L'avantage était trop grand pour être reconquis. Vainement, l'impétueux Luffet, vainement l'enthousiaste Struggle firent-ils tout ce que l'expérience et le savoir pouvaient leur suggérer pour regagner le terrain perdu par Dingledale. Tout fut inutile, et bientôt Dingledale fut obligé de reconnaître Muggleton pour son vainqueur. Cependant, l'étranger à l'habit vert n'avait fait que boire, manger et parler à la fois, et sans interruption. À chaque coup bien joué, il exprimait son approbation d'une manière pleine de condescendance et qui ne pouvait manquer d'être singulièrement flatteuse pour les joueurs qui la méritaient.
Mais aussi, chaque fois qu'un joueur ne pouvait saisir la balle ou l'arrêter, il fulminait contre le maladroit.
« Ah, stupide ! Allons, maladroit ! Imbécile ! Cruche !
Etc. » Exclamations au moyen desquelles il se posait aux yeux des assistants comme un juge excellent, infaillible dans tous les mystères du noble jeu de la crosse.
Fameuse partie, bien jouée, certains coups admirables, dit l'étranger à la fin du jeu, au moment où les deux parties se pressaient dans l'attente.
Vous y jouez, monsieur ? Demanda monsieur Wardle, qui avait été amusé par sa loquacité.
Jouer ? Parbleu, mille fois. Pas ici, aux Indes occidentales. Jeu entraînant, chaude besogne, très chaude.
Ce jeu doit être bien échauffant dans un pareil climat, fit observer monsieur Pickwick.
Échauffant, dites brûlant, grillant, dévorant.
Un jour, je jouais un seul guichet contre mon ami, le colonel Sir Thomas Blazo, à qui ferait le plus de points. Jouant à pile ou face, qui commencera, je gagne. 7 heures du matin. 6 indigènes pour ramasser les balles. Je commence. Je renvoie toutes les balles du colonel. Chaleur intense. Les indigènes se trouvent mal. On les emporte. Une autre demi-douzaine les remplace. Ils se trouvent mal de même. Blazo joue, soutenu par 2 indigènes. Moi, infatigable, je lui renvoie toujours ses balles. Blazo se trouve mal aussi. Enfoncez le colonel. Moi, je ne veux pas cesser. Quanko Samba restait seul. Le soleil était rouge, les crosses brûlaient comme des charbons ardents, les balles avaient des boutons de chaleur. 570 points. Je n'en pouvais plus. Quanko recueille un reste de force. Sa balle renverse mon guichet, mais je prends un bain et vais dîner.
« Et que devint ce monsieur Chose ?» demanda un vieux gentleman.
« Qui, le colonel Blazo ?»«
Non, l'autre gentleman. »«
Quanko Samba ?»«
Oui, monsieur. » »«
Pauvre Quanko, n'en releva jamais, quitta le jeu, quitta la vie, mourut, monsieur. »
En prononçant ces mots, l'étranger ensevelit son visage dans un pot d'aile. Mais était-ce pour en savourer le contenu ou pour cacher son émotion? C'est ce que nous n'avons jamais pu éclaircir. Nous savons seulement qu'il s'arrêta tout à coup, qu'il poussa un long et profond soupir et qu'il regarda avec anxiété 2 des principaux membres du club de Dingledale qui s'approchaient de M. Pickwick et qui lui disaient « Nous allons faire un modeste repas au Lion Bleu. Nous espérons, monsieur, que vous voudrez bien y prendre part avec vos amis. »
« Et naturellement, dit monsieur Wardle, parmi nos amis, nous comptons monsieur... »
Et il se tourna vers l'étranger.
« Jingle !» répondit cet universel personnage. « Alfred Jingle, Esquire de Santerre. »«
J'accepte avec grand plaisir, dit monsieur Pickwick. »
« Et moi aussi !» cria monsieur Alfred Jingle en prenant d'un côté le bras de monsieur Wardle et de l'autre celui de monsieur Pickwick, et en murmurant à l'oreille de celui-ci.
« Fameux dîner ! Froid, mais bon ! J'ai lorgné dans ma chambre ce matin. Volailles et pâtés et le reste. Charmantes gens et polis par-dessus le marché. Très polis. »
Comme il n'y avait point d'autres préliminaires à arranger, la compagnie traversa le bourg en petits groupes et, un quart d'heure après, elle était tout entière assise dans la grande salle du Lion Bleu de Muggleton. Monsieur Dumkins remplit les fonctions de président et Monsieur Luffey celles de vice-président. Il y eut un grand cliquetis de paroles et d'assiettes, de fourchettes et de couteaux. 3 garçons couraient de tous côtés et les mets substantiels disparaissaient rapidement. Le facétieux Monsieur Jingle contribuait, au moins comme une demi-douzaine d'hommes ordinaires, à chacune de ces causes de confusion. Lorsque tous les convives eurent mangé autant qu'ils purent, la nappe fut enlevée. Des bouteilles, des verres et le dessert furent placés sur la table et les garçons se retirèrent pour débarrasser, en d'autres termes, pour s'approprier tous les restes mangeables ou buvables sur lesquels il leur fut possible de mettre la main.
Bientôt, on n'entendit plus dans la salle qu'un vaste murmure de conversation et d'éclats de rire. Il se trouvait là un petit homme bouffi qui avait l'air de « Ne me dites rien ou je vous contredirai » et qui, jusqu'alors, était demeuré fort tranquille. Seulement, lorsque, par accident, la conversation se ralentissait, il regardait autour de lui comme s'il avait eu envie de dire quelque chose de remarquable et, de temps en temps, il faisait entendre une sorte de toux sèche d'une inexprimable dignité. À la fin, pendant un instant de silence comparatif, le petit homme s'écria d'une voix haute et solennelle. « Monsieur le fait !» Tout le monde se tut et l'individu interpellé répliqua au milieu d'un profond silence. « Monsieur ?» « Je désire vous adresser quelques paroles, monsieur, si vous voulez engager ces messieurs à remplir leurs verres. » Monsieur Jingle, d'un ton protecteur, s'écria « Écoutez, écoutez !» Et ces paroles furent répétées en chœur par toute la compagnie. Le vice-président prit un air de gravité attentive et dit « Monsieur Staple ?»« Monsieur ?» dit le petit homme en se levant. « Je désire adresser ce que j'ai à dire à vous et non pas à notre digne président, parce que notre digne président est en quelque sorte, et je puis dire en grande partie, le sujet de ce que j'ai à dire, et je puis dire à... » « À démontrer, » suggéra M. Jingle. « Oui, à démontrer, » reprit le petit homme, « et je remercie mon honorable ami, s'il veut me permettre de l'appeler ainsi, » 4. Écoutez et un « certainement » de M. Jingle. « Pour la suggestion, monsieur, je suis un délois, un diglé délois. » Applaudissements. « Je ne puis réclamer l'honneur d'ajouter une unité au chiffre de la population de Muggleton. Et je l'avouerai franchement, monsieur, je ne désire point cet honneur. Je vous dirai pourquoi, monsieur. Écoutez !» Je reconnaîtrai volontiers à Muggleton toutes les distinctions, tous les honneurs qu'il peut réclamer. Ils sont trop nombreux et trop bien connus pour qu'il soit nécessaire que je les récapitule. Mais, monsieur, tandis que nous nous rappelons que Muggleton a donné naissance à un Dumkins, à un Podder, n'oublions jamais que Dingley Dell peut se vanter d'avoir produit un Leffet et un Struggles. Applaudissements tumultueux. Qu'on ne me croie pas désireux d'obscurcir la gloire de ces gentlemen que j'ai nommés en premier lieu, monsieur, je leur envie les jouissances qu'ils ont dû ressentir dans cette mémorable journée. Applaudissements. Vous connaissez tous, messieurs, la réplique faite à l'empereur Alexandre par un individu qui, pour me servir d'une expression vulgaire, faisait sa tête dans un tonneau. Si je n'étais pas Diogène, je voudrais être Alexandre. Je m'imagine que ces messieurs doivent dire « Si je n'étais pas Dumkins, je voudrais être Leffet. Si je n'étais pas Podder, je voudrais être Struggles. » Enthousiasme. Mais, gentlemen de Muggleton, est-ce seulement à la crosse que vos compatriotes sont remarquables? N'avez-vous jamais entendu citer Dumkins comme un exemple de persévérance? N'avez-vous jamais appris à associer Podder et la propriété ? Grands applaudissements. En luttant pour vos droits, pour votre liberté, pour vos privilèges, n'avez-vous jamais été réduit, ne fût-ce que pour un instant, au doute et au désespoir ? Et quand vous étiez ainsi découragé, le nom de Dumkins n'a-t-il pas ranimé dans votre cœur le feu de l'espérance ? Une seule parole de cet homme colossal ne l'a-t-elle pas fait briller avec plus d'éclat que s'il ne s'était jamais éteint ? Grands applaudissements. Gentlemen, je vous prie d'entourer d'une riche auréole d'applaudissements frénétiques les noms unis de Dumkins et de Podder. Ici, le petit homme se tut et la compagnie commença un tapage de cris, de coups frappés sur la table, qui dura avec peu d'interruption pendant le reste de la soirée. D'autres toasts furent portés. M. Leffet et M. Struggle, M. Pickwick et M. Jingle furent chacun à son tour le sujet d'éloges sans mélange, et chacun à son tour exprima ses remerciements pour cet honneur. Enthousiastes comme nous le sommes pour la noble entreprise à laquelle nous nous sommes dévoués, nous aurions éprouvé une inexprimable sensation d'orgueil, nous nous serions cru certains de l'immortalité dont nous sommes privés actuellement, si nous avions pu mettre sous les yeux de nos ardents lecteurs le plus faible compte rendu de ces discours. Comme à l'ordinaire, M. Snodgrass prit une grande quantité de notes, et sans doute nous y aurions puisé les renseignements les plus importants, si l'éloquence brûlante des orateurs ou l'influence fébrile du vin n'avaient point fait trembler la main du gentleman au point de rendre son écriture presque inintelligible et son style complètement obscur. À force de patience, nous sommes parvenus à reconnaître quelques caractères qui ont une faible ressemblance avec les noms des orateurs. Nous avons pu distinguer aussi le squelette d'une chanson, probablement chantée par M. Jingle, dans laquelle les mots « vin » et « divin », « rubis » et « ravi » sont répétés à de courts intervalles. Nous nous imaginons aussi pouvoir déchiffrer, à la fin de ces notes, quelques allusions à des restes de gigots ou de volailles braisées. Puis, ensuite, nous distinguons les mots de grog froid et d'aile. Mais comme les hypothèses que nous pourrions bâtir sur ces indices n'auraient jamais d'autre fondement que nos conjectures, nous ne voulons nous permettre d'exprimer aucune des suppositions nombreuses qui se présentent à notre esprit. C'est pourquoi nous allons retourner à M. Tupman, nous contentant d'ajouter que, peu de minutes avant minuit, les sommités réunies de Dingledel et de Muggleton furent entendues chantant avec enthousiasme cet air si poétique et si national. Nous ne rentrerons que demain matin, nous n'irons coucher qu'au jour. Nous ne rentrerons que demain matin au point du jour, nous n'irons coucher qu'au jour.